Europe 1.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, je reçois Raphaël Haroche. C'est ce Raphaël-là.
Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux? Que nos mains ne tiennent plus ensemble? Moi aussi, je tremble un peu.
C'est le chanteur donc, mais il vient pour un roman, superbe, pas pour une chanson. Ensuite, visite de bibliothèque chez Didier Barbelivien, encore un chanteur, tiens. Et puis à la fin de l'émission, on réunit tout le monde, littérature jeunesse, bande dessinée, libraire, pour plein d'autres idées de lecture. Mais d'abord, donc, c'est l'invité, La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. On aurait pu se dire, c'est vrai, oh la vedette qui sort son livre, mais non, il arrive tout doucement. Humblement, il a publié des nouvelles d'abord magnifiques et le revoilà avec un roman cette fois. Et pareil, pas de faux style, pas de regarder comme je suis écrivain. C'est délicat, c'est beau, ça s'appelle Avalanche au singulier. C'est chez Gallimard. Bonjour Raphaël Haroche.
Bonjour Nicolas, merci beaucoup de me recevoir.
Avec plaisir. C'est vrai ce que je disais, non, j'ai l'impression que vous êtes venu à la littérature avec beaucoup de respect, mais presque en vous excusant d'être là.
Oh non, je dirais pas m'excuser d'être là, après... Moi, j'ai commencé par faire deux livres de nouvelles, mais j'ai une adoration pour les nouvelles, donc je ne vois pas du tout ça comme, je sais pas, comme un court-métrage par rapport au long-métrage. Je ne vois pas ça comme un document intermédiaire, quoi. Les nouvelles de, je sais pas, de Tchekhov ou de Carver font partie des choses les plus belles que j'ai lues dans ma vie.
Bon cours de la nouvelle, d'ailleurs, il me semble.
Oui, beaucoup de chance. Donc, je ne suis pas venu en m'excusant, je suis venu au contraire. J'étais accueilli incroyablement par...
Triomphant, mais avec, je veux dire avec beaucoup d'humilité.
Oui, parce que c'est vrai que je pensais pas être écrivain, tout simplement. Vous m'auriez rencontré à 9 ans, je vous aurais dit, ouais, je veux être chanteur, et j'aimais chanter, et j'aime toujours chanter passionnément, c'est mon premier amour. Et c'est venu un petit peu, je dirais pas par hasard, mais parce que finalement, quand on écrit des chansons, on écrit parfois des minuscules histoires, et parfois, on a quand même une musique, souvent dans la tête, et que c'est un petit peu la même chose qu'écrire un livre, je crois. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas vu venir. Pour être tout à fait honnête.
Et la poésie?
Et la poésie, j'aime beaucoup ça, la poésie. Comment est-ce que
vous... Non, parce que vous écrivez des chansons, oui. Pour moi ça se ressemble beaucoup.
Oui, donc, la poésie et les chansons, c'est pareil. Non, pour moi c'est pareil.
D'accord. Voilà. Donc moi, vous avez déjà écrit en fait de la poésie d'une certaine manière.
J'ai l'impression que c'est ce que je fais quand je fais des chansons, quoi. J'écris un petit poème et simplement c'est des poèmes un peu simples et parfois il y a des répétitions pour faire des choses qui peuvent revenir comme des refrains ou des boucles ou pour qu'il y ait un aspect cyclique qui est propre à la chanson, mais je dirais que c'est vraiment. Un peu la même chose, sans prétention. Après, j'ai l'impression que
dans les romans, il y a de la poésie partout.
Oui, il y en a. En tout cas, moi, dans ceux que j'aime, il y a ce que je préfère peut-être dans la littérature, c'est le rêve et la poésie. C'est-à-dire ceux qui travaillent l'inconscient, les écrivains qui travaillent l'inconscient, qui travaillent l'imaginaire, ou dans le cinéma aussi. Je sais pas, c'est pour donner un exemple, ça va être Lynch, Fellini ou des gens comme ça. C'est les cinéastes vraiment qui me passionnent, qui pour moi sont des artistes.
On va entrer dans le dur, mais j'avais une autre question avant.
Oui.
Bonjour Monsieur Haroche.
Oui. Bonjour Monsieur Carreau.
Moi, je connais vos chansons comme tout le monde, quoi. J'aime beaucoup, mais je sais que vous appelez Raphaël, c'est tout, quoi. Raphaël Haroche, j'imagine que vos fans le savent. Tout le monde sait ça, et même si on tape sur Google, j'imagine qu'on se trouve facilement.
Oui.
Mais là, vous arrivez comme Raphaël Haroche, c'est marqué sur la couverture.
Oui. Bah, disons que c'est toujours. C'est pas toujours. Le choix d'un nom de chanteur, c'était une. Comme ça, j'ai décidé très jeune, j'avais 23 ans quand j'ai fait mon... Enfin, très jeune, relativement jeune. J'avais 23 ans quand j'ai fait mon premier disque. Et donc, j'étais à un moment donné où je sortais un peu de... On a un peu envie de brouiller les pistes, les origines, comme ça, d'être issu par génération spontanée. Et donc, du coup, moi, j'avais envie d'enlever mon nom de famille pour être comme si, voilà, venu de nulle part. Et aussi, il y a une tradition du chanteur, comme ça, populaire, qui est le moi, quand je vais dans un bistrot, qu'on me dit « Comment il va, Monsieur Raphaël ?» J'aime bien ça, je trouve ça sympa. Voilà, il y a un côté tout de suite familier que je trouve charmant, quoi. Et puis, il y a une tradition de Barbara, de Christophe, bon, plein de gens qui ont qu'un prénom.
Mais parce que la dame à l'accueil tout à l'heure, elle m'a appelé en me disant « Il y a Raphaël qui est là ». Et je me suis fait la réflexion en allant vous chercher. Je me suis dit « C'est marrant quand même, tout le monde l'appelle Raphaël et lui tape dans le dos, quoi ».
Bah, j'aime bien ça, moi. J'aime bien qu'on me tape doucement dans le dos. Oui.
Alors, Avalanche, oui. On est en 1989, dans un train, wagon fumeur. Oui. Ça aussi, c'est une époque.
Oui. On s'en souvient, les wagons fumeurs. Oui. Bah, je ne sais pas si vous...
Oui, 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 oui. Tout juste, moi. Ouais. Mais j'y allais juste pour fumer, moi, ouais, j'y restais pas.
Parce que
ça schlinguait quand même.
Ah, ça schlinguait, c'était dur. Oui.
C'était hard. D'ailleurs, il en parle dans le roman, Léonard, 15 ans, qui fume, et son frère Nicolas, plus jeune, frêle et un peu perdu, accroché au basque de son grand frère. Nicolas, qui est aussi un virtuose du piano, et c'est pour ça qu'ils sont dans ce train, oui. Parce qu'ils ont eu une bourse pour partir dans un pensionnat d'hyper riches, oui. En Suisse. On voit un peu à quoi ça ressemble, même si on n'a jamais mis les pieds là-bas. On a des images d'Épinal qu'on mixe, à mon avis, peut-être avec des pensionnats type Disparu de Saint-Agile. Voilà.
Oui, sûrement. Oui.
Et moi, c'est l'idée que j'en avais.
Ouais, moi aussi. Ouais.
Ils ont perdu leur mère, les pauvres garçons, il n'y a pas très très longtemps. Donc, ils vivent avec ça. Ils essayent un peu. Léonard, il est costaud quand même, il a 15 ans, enfin il est costaud, non il est fragile, mais je veux dire, il joue les costauds quoi. Et il faut qu'il s'occupe de son petit frère parce que leur grand-mère leur fait des grands signes en leur disant au revoir par la vitre du train, ils vont se retrouver tout seuls. Et Léonard, tout seul, il s'en serait bien sorti d'ailleurs, mais là il sait que ça va être plus compliqué parce qu'il faudra traîner un peu Nico, son frère, Nick, il l'appelle Nick d'ailleurs, il ne se surnomme pas Nico, il le surnomme Nick, pour aller donc dans ce pensionnat.
Oui, alors c'est, je dirais que les deux, c'est déjà merveilleux de comme ça de vivre avec de nouvelles personnes, des nouveaux personnages, d'apprendre à les aimer, de les voir, voir là où ils vous emmènent, de grandir un peu avec eux, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est des gens avec qui j'ai plus ou moins étudié maintenant, alors qu'en fait, ils n'existent pas, quoi.
C'est de la pure fiction ?
Oui, oui, c'est de la pure fiction. Alors peut-être que je vois j'ai mis des caractères de une partie de moi dans un certain nombre de ces personnages. Mais j'ai l'impression que les deux frères, il y a de moi dans ces deux frères, par exemple.
Mais d'ailleurs, il y a un bandeau avec une photo,
oui.
Où on vous voit. Alors,
dans un miroir.
Je crois que c'est dans un miroir. Mais la première chose que je me suis dit, c'est tiens, il a posé avec son frère. C'est
très
mignon.
Mon petit garçon m'a dit c'est qui l'autre type là sur la photo. Je lui ai dit enfin, c'est moi. Comment
c'est
ça, c'est lequel l'autre type
cette photo.
Ouais, c'est bizarre d'être double comme ça sur une image, de ne pas se ressembler dans son reflet. C'est très curieux.
Mais c'est donc d'abord une histoire de frères qui ne se ressemblent pas du tout.
Deux frères qui ne se ressemblent pas du tout. C'est vrai, il y en a un qui a 15-16 ans, qui est assez cynique, qui est dur, qui était dans l'accident de voiture qui coûtait la vie à sa mère et qui est travaillé par une culpabilité terrible et qui ne croit plus en rien. Quoi, parce que je pense que le fait d'être orphelin comme ça a balayé toute croyance. Et il va dans cet pensionnat pour riches parce que son petit frère qui a 12 ans et qui au contraire a une pensée magique et a une grande candeur... Et invité là-bas parce qu'il y a des bons professeurs et que comme ça il va pouvoir avoir une formation sérieuse de pianiste. Et donc du coup, c'est à la fois il a envie de se faire accepter de ce monde de c'est un petit monde d'enfants abandonnés complètement par leurs parents, tous très riches, très méprisants, plein de cynisme. Et il essaye de se faire accepter par ce monde et en même temps il a son frère qui se fait bizuter, maltraiter, malmener parce qu'il est inadapté. Il est déchiré quoi, parce qu'il a envie de l'aider et qu'il l'aime et en même temps il a honte. Peut-être le sujet du livre, c'est un peu la honte quand même.
Mais c'est vrai que dans la quatrième de couverture, puis j'ai vu un ou deux papiers passer sur le livre qui parlent de cette violence et du bizutage qu'il y a effectivement. Oui. Et puis il y a de la violence aussi. Mais
oui.
Moi je trouve quand même que c'est la douceur qui domine dans le livre.
Ah bah
justement grâce à cette relation.
Ouais,
quoi.
Moi je trouve que c'est un mélange des deux. Je trouve qu'il y a une grande tendresse et en même temps... Je trouve que le narrateur est dur, quoi. Il est. J'avais peur qu'il soit pas immédiatement aimable pour les gens parce que on suit son courant de pensée en permanence. Il est traversé. Ça va de pensées sexuelles très crues à des, enfin relativement crues, à des pensées assez dures comme ça et voire très négatives. Et en même temps, il s'en veut aussitôt. Enfin,
mais
en
oui,
tout
il
cas,
est toujours sauvé au dernier moment. Ouais. Et je pense à un récit en particulier. Je ne peux pas trop en dire, mais où il nous raconte un truc qu'il a fait qui est absolument abominable.
Terrible, ouais,
et à la dernière ligne, en fait, il est sauvé. Quoi.
Oui, cette histoire, elle m'intéressait parce que c'était un peu comme ce que c'est qu'écrire un livre. Il se balade dans un train en retour d'une soirée, il croise un aveugle dans le train. Il ne se passe rien de spécial, simplement, il croise un aveugle. Et puis trois jours après, il est avec sa psychiatre et sa psychiatre lui demande ce qu'il a fait ce week-end. Et elle lui pose des questions toutes les semaines, comme ça, et il dit bon, il va transformer cette histoire de l'aveugle en une histoire terrifiante, comme un crime quoi, voilà, qu'il aurait commis, qui raconte par le détail, par le menu, sa psychiatre. Et sa psychiatre, qui veut toujours normaliser tout ce qui se passe, dit bon, bien,
Bah oui, mais moi j'y croyais aussi. Après, je me suis dit, ouais, ah d'accord, ouais, en fait, c'est un flashback et tout. Ouais, ouais. On n'en dit pas plus, par pitié, plus, parce que là, on va casser les faits. Ouais. Et on se retrouve dans un instant.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Raphaël Haroche pour Avalanche chez Gallimard. Magnifique roman, l'histoire de deux frères, Léonard 15 ans et Nicolas 12 ans à peu près.
Oui.
Virtuose du piano, ils ont obtenu une bourse grâce à Nicolas pour aller dans un pensionnat de super riches mais qui a bonne réputation pour les notes et tout ça. Alors on s'aperçoit qu'en fait ils ne bossent pas plus que dans un autre
ils sont abandonnés,
établissement,
quoi.
Puis ils sont tout seuls. Ouais. Puis bon. C'est pas terrible finalement, ouais. Mais puis surtout ils sont confrontés à une sorte de contraste avec ces types-là qui sortent, qui sont des enfants désespérés, mais des enfants super riches qui partent en Maserati quand on dit que leur grand-mère à eux, elle est là avec ses sacs plastiques et elle les ramène en bus. Et puis il y a ce contraste très intéressant. Est-ce que c'est pour ce contraste ou parce que vous aviez envie de ce décor qui est un décor de hyper romanesque? Et je parlais des disparus de Saint-Agile tout à l'heure. Enfin, il y a comme ça, on a des images surtout de cette génération, de notre génération, disons-le, où il y a ce vestige qu'on n'a pas connu.
Oui, exactement. Moi, c'est plus ce vestige qu'on n'a pas connu. C'est cette chose de la montagne déjà, des névés, d'une chose qui est à la fois vertigineuse et à la fois qui purifie. Et en même temps, il y avait cette idée de... Puis du cœur de l'Europe, comme ça, presque de la Mittel Europa, comme ça, de la montagne magique. C'était un peu ça la chose dans mon imaginaire. Moi, je ne me suis pas renseigné, je n'ai pas été dans un pensionnat suisse. Je ne le connais pas, quoi. Mais justement, ça, c'est presque dans notre inconscient collectif européen, comme ça.
Je cherche la phrase, mais il y a un moment où vous décrivez... Ah, voilà. Vous dites, vous parlez donc de ces gamins, et vous dites « Une réunion des parents d'élèves, si elle avait lieu, ressemblerait à une audience préliminaire de la Cour pénale internationale. »
Oui.
C'est-à-dire que c'est beaucoup d'enfants de dictateurs.
Oui, d'oligarques, de dictateurs.
Et qui défendent leurs parents tout en les contestant. Enfin, c'est ça aussi leur drame, à ces gamins-là.
Oui, j'ai l'impression qu'ils ne jugent même pas. Là. Ils sont dans un monde complètement hors sol. On voit autour d'eux, le monde se délite complètement, change. Pinochet est viré, le mur de Berlin tombe, les Ceausescu sont traînés dans la cour d'une prison pour être fusillés, et ils en ont profondément rien à foutre parce qu'ils savent que ça ne changera pas grand-chose pour eux, à moins qu'on vienne les chercher eux, sinon ils s'en foutent, quoi. Et j'aimais bien cette idée de moment où le monde connaît de tels bouleversements que rien ne change dans ce...
Oui, mais c'est pas moins que zéro de Bret Easton Ellis, quoi.
Non.
C'est pas que des salopards et
non,
tout.
Non, non.
Il y en a un particulièrement.
Mais même lui, il a des choses qu'il rachète aussi, quoi, je ne sais pas.
Voilà, absolument. Mais il y en a une qui est très, très intéressante de ce point de vue-là. C'est la Tsarine, qui est pratiquement un des personnages principaux.
Oui,
hein,
oui.
C'est son surnom, la Tsarine.
Oui.
Et c'est une fille, voilà, une camarade de classe de Léonard, avec qui il se passera quelque chose ou pas. Mais elle est très cynique et très désespérée. On le voit tout de suite. Mais en même temps, elle essaye de composer avec tout ça.
Ouais, en même temps, elle est très charmante et je crois très... C'est comme elle incarne le mystère absolu féminin, quoi. C'est-à-dire qu'il ne sait jamais sur quel pied danser, ce qui va lui arriver, il n'arrive pas à la comprendre. Il est juste tout à fait fasciné et en même temps, elle s'échappe en permanence, je crois.
Et alors, vous en avez parlé, mais c'est aussi une traversée de l'époque, quoi, parce que vous avez parlé de Ceausescu, mais avant... On tombe sur des figures plus sympathiques comme Indiana Jones, parce que ça vient de sortir au cinéma.
Ouais.
Mike Tyson, avec son combat qui le rend célèbre. Puis à la fin, c'est Ceausescu, la mort de Ceausescu, enfin le procès. C'était ça aussi, votre idée, c'était de replonger avec cette nostalgie des années 80-90.
Oui, surtout cette période-là, ces quelques mois-là, c'est quand même quelques mois où le monde a basculé totalement. Quoi. C'est fou, en fait, tout ce sur quoi... Notre monde était construit, en tout cas ici en Occident ou en France, s'est effondré en quelques semaines comme ça. Donc je me souviens très bien, j'avais 14 ans à cette époque-là, donc j'avais à peu près l'âge entre les deux personnages, il y en a un qui a 15-16 et l'autre qui a 12, effectivement. Et donc je suis un peu celui du milieu, quoi, quelque part. Mais oui, c'est des périodes de très grands bouleversements dont on s'aperçoit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine qui ne sont pas tout à fait finies, voire pas finies du tout.
D'ailleurs, c'est intéressant, ça, vous êtes qui quand vous racontez cette histoire? Vous n'êtes pas Léonard, vous n'êtes pas Nicolas, mais vous dites que vous êtes entre les deux. Est-ce que vous êtes avec eux dans le pensionnat, vous êtes le troisième frère, ou est-ce que vous êtes bien à votre bureau en train d'écrire sans aucun
doute? Moi, je suis à mon bureau en train d'écrire, ouais, je crois que je vois juste ce qu'il faut pour un petit bout de décor, mais je ne vois pas tout, je vois juste, je ne sais pas trop, en fait, je n'ai pas une grande expérience. Mais
assez brumeux quand vous écrivez?
L'environnement, je vois une cour, je vois les dortoirs, mais les dortoirs, des fois, ils changent de forme. Ça ressemble à un songe, un peu. Rien n'est tout à fait certain.
Ah, parce qu'on voit extrêmement clair quand on vous lit.
Oui, bah, c'est super.
Et vous avez travaillé ça avec votre éditrice, peut-être aussi, ou alors c'était malgré ce que vous aviez l'impression d'écrire, ça s'est avéré être visuel et clair.
Ben, je crois, non, j'ai pas travaillé cet aspect-là avec mon éditrice. Avec mon éditrice, j'ai travaillé surtout quelque chose de très précieux, c'est que j'avais écrit 2-3 débuts de romans, 2-3 fois 100 pages à peu près, ou 70 pages, et j'étais complètement perdu. Et un jour, j'ai déjeuné avec elle, c'était à la fin du premier confinement. On se donnait un peu d'amitié clandestine, comme ça, on habitait pas loin, donc on arrivait à se voir. Et elle m'a dit, envoie-moi tes débuts. Et donc, je lui ai envoyé les 3 livres de 100 pages qui étaient déjà bien avancés, même jetés pour certains. Et il y avait les 2 premiers chapitres de ce livre-là. Et elle m'a dit, c'est ça l'histoire que j'ai envie d'entendre. Raconte-moi la suite de ça. Et ensuite, elle m'a pas lâché, quoi. Donc, simplement en attendant, en me disant, il faut que tu continues. Elle m'a dit, tu mets le titre de chaque chapitre. Ensuite, tu t'habilles convenablement. Tu vas à ta table le matin. Tu te coiffes. Enfin, c'était quelque chose de cet ordre-là de la prise en charge. Et c'était très important, son rôle.
Je suis désolé, je vais un peu dans tous les sens. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais
c'est très bien, c'est très bien.
J'avais aussi envie de vous parler de l'oisiveté qui est de ces super riches qui ressort particulièrement le week-end où le gamin, il se balade avec la Mercedes en fait, de papa, quoi. Mm. Enfin, du chauffeur même. Et ils vont faire des vraies conneries. Ils ont un pistolet et tout pour aller tirer dans la campagne, comme ça. C'est vraiment l'oisiveté qui mène au vice, quoi, comme le veut l'adage. Est-ce que c'était le point de départ aussi de votre roman, c'était d'explorer ça aussi, ces super riches-là, ou c'était juste une conséquence?
C'est juste une conséquence. J'ai l'impression que la violence, elle est partout, un peu la même dans toutes les couches de la société. Ça peut être dans un tout petit village où les gosses qui se font chier vont tirer la carabine sur un stop dans la cambrousse, et eux, ils ont une Mercedes et ils vont tirer avec le flingue du garde du corps sur des bouteilles de vodka dans la montagne, mais c'est
les roule à 250 pour aller sur place.
Et mais dans les petits villages, il y a aussi des gosses qui roulent, horrible bien sûr. Et ensuite, il y a aussi des gosses qui roulent en moto à une vitesse folle, pareil. C'est des conduites ordaliques comme ça, un peu enfin plus qu'ordalique là, voire criminelle de la jeunesse, quoi.
Et c'est pour ça que je disais aussi que vous aviez écrit des nouvelles, c'est qu'il y a quelques scènes qui sont en fait presque des nouvelles elles-mêmes, quoi. Je pense à cet épisode-là où le sale gosse, là, avec son flingue, braque un pauvre type. Mm. Je ne raconterai pas plus, mais ça ressemble à une nouvelle. Et il y a un autre passage très, très beau dont on va parler dans un instant.
D'accord, avec plaisir.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.
La voix est livre, le retour de la vengeance, avec Raphaël Haroche pour Avalanche chez Gallimard. Faut qu'on parle du titre aussi, d'ailleurs, faites-moi penser, Raphaël.
Ouais, j'aime beaucoup ce titre.
Et
quelle chance qu'il ne soit pas pris, quoi.
Oui, c'est toujours étonnant, ça, quand on cherche un titre.
Titre aussi,
dit,
aussi simple ça que ça,
exister.
Aussi clair, que ça n'existe pas, c'est fou.
Bon bref, mais on y revient, mais je voulais parler, juste avant la pause, je disais qu'il y avait beaucoup de scènes du roman qui ressemblent à des nouvelles, ou qui auraient pu être des nouvelles, en reconstruisant peut-être un peu autrement, hein. C'est un exercice particulier, la nouvelle, hein, vous le savez bien. Vous avez le Goncourt de la nouvelle pour vos recueils, et il y en a une qui est magnifique, celle-là je la raconte.
Okay.
C'est Nicolas et Léonard, donc son frère, qui sont en train de faire les cons, en fait, dans la rue.
Ils ont un jeu.
Voilà, ils ont un jeu débile.
Ils vont à l'endroit où leur mère est accidentée, c'est un jeu grave quand même. Et ils s'amusent à jouer aux morts, comme par mimétisme. Donc à l'endroit où la mère a eu cet accident, ils font semblant qu'ils sont blessés au bord de la route, ou que le petit est blessé au bord de la route. Ils font des grands signes aux automobilistes pour qu'ils s'arrêtent. Et je vous laisse continuer.
Ah non, c'est tout, c'est ça. Et il y a un moment où un automobiliste, en fait, se vexe et leur court après et les chope. Et même, il met une grosse mandale à Nicolas, au petit fragile, quoi. Et il chope Léonard par le callback et il les met dans sa voiture. C'est un monstre, hein, c'est un taureau.
C'est un costaud.
Et puis il reprend sa voiture et il veut juste les emmener chez leurs parents pour prévenir les parents.
Ouais.
Il demande l'adresse des parents.
Ouais.
Et Léonard, dans sa tristesse absolue, lui donne l'adresse du cimetière. Ouais. En fait. C'est donc le gars...
Enfin, lui donne une adresse
voilà.
dont tu ne sais pas, il lui dit 70 route du Condreau. Et donc le chauffeur continue à pester en disant je vais parler à votre mère, moi c'est pas étonnant que votre père, où est votre père? Il dit mon père c'est en Amérique du Sud. Il dit, pas étonnant qu'il soit barré, bande de petits connards, enfin voilà, votre mère elle va avoir affaire à moi. Et puis il lui dit, il lui donne l'adresse, et puis en se garant devant le cimetière, il lui dit, mais vous habitez où après ou avant le cimetière? Il dit, bah, vous voulez parler à notre mère, non? Il dit, oui. Bah, elle est 12, rangée 23, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait encore son mot à dire sur notre éducation. Et là, évidemment, le type est détruit, quoi, parce qu'on imagine qu'il rentre chez lui le soir et qu'il est en larmes, qu'il est bouleversé. Donc il perd complètement la face et il ne sait plus comment le manifester. Enfin, c'est une espèce d'histoire terrible où on sent que les trois personnages, en rentrant chez eux le soir, sont détruits, quoi.
Et qui m'a fait penser, moi, à Raymond Carver et notamment à La Nouvelle Petite Douceur. Mais vous m'avez dit juste avant l'émission, je vous en ai parlé parce que j'ai trouvé ça superbe, que ce n'était pas forcément lié. Mais, mais c'est vrai, ce côté, ces scènes qui ressemblent à des nouvelles, non? Elles pourraient chacune être une histoire à part.
Je l'ai pas lu, celle de Carver, mais je la connais parce que j'ai vu le film Shortcuts où elle est représentée. C'est une nouvelle, c'est même le cœur du film Shortcuts. C'est un petit garçon qui a un accident de vélo. Et trois jours avant son anniversaire, et du coup, les parents avaient commandé un gâteau. Et ils ne viennent jamais chercher le gâteau parce que l'enfant est dans le coma. Et du coup, le pâtissier appelle, fait des appels.
Parce qu'il a marqué Scotty dessus. Donc
Exactement. Donc, il fait des appels malveillants la nuit, trois nuits de suite ou quatre nuits de suite. Et puis, à un moment donné, l'enfant meurt. C'est terrible. Et les parents vont voir le pâtissier parce qu'ils arrivent à savoir qui est appelé. En disant, pour eux, ils sont responsables de la mort de l'enfant. Le pâtissier est responsable de la mort de l'enfant tellement il a appelé, bloqué la ligne au moment où ils attendaient les nouvelles des médecins. Et puis, le pâtissier s'effondre aussi. Pareil, il y a quelque chose comme ça. Il leur fait des gâteaux, il leur fabrique des cookies ou un truc comme ça. Enfin, c'est très, très beau.
Et c'est très, très beau, mais il y a justement cette chute de nouvelles, quoi.
Oui.
Magnifique. Et dans le roman, il y a plusieurs scènes comme ça. Est-ce que c'était conscient ou est-ce que vous dites pas du tout?
Si. Voilà. Moi, je suis fou des nouvelles et donc j'aime bien l'idée qu'à l'intérieur d'un roman, il y a des petites scènes qui soient très visuelles, en fait, qui donnent vraiment comme des scènes de film. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est un peu comme une suite de nouvelles, hein, mais c'est souvent comme ça, les romans, non?
Et qu'on peut raconter à part du roman, en fait. Parce que sinon, là, tout est lié. Ouais, c'est un roman qui se tient et qui est hyper cohérent. Mais il y a parfois des histoires qui ressortent, qui brillent un peu plus, qu'on peut sortir du contexte qu'on aurait pu raconter autrement. Il faut qu'on parle du titre, Avalanche. Alors d'abord, pourquoi au singulier et pourquoi Avalanche? À la fin, il y a pratiquement Avalanche d'un point de vue littéral, mais pourquoi Avalanche?
Déjà parce qu'il y a effectivement à la fin une avalanche d'un point de vue littéral. Ensuite, j'aimais bien l'idée qu'il y a une menace comme ça, qu'il y a quelque chose qui... Et puis... Il y a cette chose de l'adolescence qui est une perte de repères. On est emporté dans une pente, on sait qu'on doit dévaler la pente, on ne sait pas si on se retrouve à l'endroit, à l'envers, où est l'obscurité, où est la lumière. Quoi. Il y a cette chose-là de creuser pour savoir si on va sortir sous la neige ou si on va au contraire être englouti. Moi, ça me fait penser à ça un peu, une vision un peu crépusculaire de l'adolescence, certes, mais...
Oui, puis il y a l'avalanche qu'on provoque, et puis celle qui s'est provoquée toute seule, qui est plus une histoire de destin au-dessus, qui plane et... qu'on ne contrôle pas.
C'est vrai. Moi, je crois qu'on ne contrôle pas grand-chose à titre personnel.
Votre écriture, peut-être.
Oui, c'est vrai.
Mais alors, racontez-moi, quand vous avez trouvé le titre, vous vous êtes dit, c'est foutu, ça existe déjà?
Non, j'ai été vérifié. J'ai été sur Internet. J'ai
pas vu qu'il y avait plus de panique
non,
que ça.
Non, il y avait un truc. Ouais, il y avait un... Puis j'avais une liste de travail. En plus, j'ai trouvé un peu au dernier moment le titre. J'avais une liste. Je travaillais sur d'autres titres de travail. Donc, c'était vraiment... plutôt au mois de novembre que j'ai trouvé ce titre.
Ah, vous aviez le titre?
Oui, j'avais d'autres titres de travail. Ouais. C'était le titre d'un chapitre, Avalanche. En fait, j'avais mis des titres à chaque chapitre. Et ensuite, j'ai regardé. Il y avait un film des années 70, genre Avalanche. Mais c'était pas, il n'y avait pas de livre, alors que vraiment, je trouve que c'est un joli titre. Quoi.
Il faut qu'on parle de la discipline d'écriture et qu'on, si vous voulez bien qu'on ouvre la cuisine
bien sûr,
pour voir un peu comment vous travaillez. D'abord, où est-ce que vous travaillez?
Dans ma cuisine, justement.
C'est vrai?
Ouais, j'adore. J'ai pas de... Mais même la musique, quoi, j'ai pas de bureau. Je veux dire, je suis un des seuls musiciens qui a fait beaucoup de disques des centaines de spectacles. Et j'ai un piano, une guitare chez moi. Dans le salon. En fait, le piano est dans ma chambre à coucher. Quoi. Et j'ai deux guitares dans le salon. J'ai un ordinateur, mais j'ai pas de magnéto, j'ai pas de machine, quoi.
Ouais, mais vous vivez pas tout seul, comment vous faites?
Non, je vis dans le... J'ai besoin de... Déjà, je travaille la journée surtout, et puis le soir, dans le salon, je peux travailler le soir tranquillement quand les autres peuvent dormir. Mais j'aime bien être au milieu de la vie, en fait. Dès que j'ai pris des petits endroits pour travailler, je me demandais ce que je foutais là, et j'avais une espèce d'injonction au travail où j'étais devant ma table et puis je foutais rien. Quoi. Donc,
et pourquoi la cuisine ?
J'ai toujours adoré les cuisines. Déjà, j'adore cuisiner. Puis c'est un peu comme les deux centres pour moi d'une maison, c'est un piano et une cuisine, quoi. Enfin, pas un piano de cuisine, mais je veux dire piano pour jouer de la musique, c'est vraiment la première chose. Et une cuisine, l'endroit où, je sais pas, c'est le cœur. Il y a les deux, il y a une table. Moi, je travaille soit au bar, des fois, j'ai quand même deux routines. Soit je vais au bar, qui est comme ça devant une fenêtre, soit à la table, mais je suis toujours sur un coin, j'ai ma tasse de café, mon truc. J'adore ça, quoi.
Puis, à l'ordinateur ?
À l'ordinateur, oui, j'écris pas à la main, du tout.
Jamais ?
Non, j'arrive même pas à me relire quand j'écris à la main. J'ai une écriture tellement manuscrite, tellement dégueulasse que sincèrement, j'ai du mal à me relire moi-même. J'ai toujours un petit carnet sur moi. Mais je peux vous dire que si
ah ouais, si un petit carnet chose, bleu là.
C'est illisible quoi. Absolument illisible.
Mais vous écrivez pour l'écrire. Une fois que vous l'avez écrit, vous le retenez en fait.
Ou c'est des toutes petites notes, ou c'est des choses comme ça. Mais c'est le téléphone. Je promène beaucoup de notes sur le téléphone maintenant. C'est quand même vachement bien ça.
Et est-ce que sur l'ordinateur, vous mettez carrément les marges d'un livre format Gallimard, quoi, pour faire comme si.
NRF, je marque NRF à chaque page. Et mon nom.
Non, mais pour voir où vous en êtes.
Oui.
Police et tout.
Ouais, bien sûr, à peu près. Alors, je sais pas pourquoi dans mon traitement de texte, j'ai pas le nombre de signes, c'est ça. Et les éditeurs, ils parlent en signes. Alors, moi, je dis toujours, j'ai tant de mots. Ils me disent, mais ça fait combien en signes ? Je dis, je sais pas, il y a combien de signes dans un mot ?
C'est dans statistique. Donc,
oui.
Je vous montrerai.
Donc, c'est. Ouais. Je veux bien. Et donc, et puis la routine de travail, j'en ai pas vraiment, quoi. C'est juste que là, pendant ces 4-5 années qui ont passé, j'ai beaucoup écrit, quoi. J'ai écrit peut-être 3-4 livres, quand même, de 100 pages que j'ai foutu à la poubelle. Et on est dans un état psychologique un peu. On est chiant à vivre quand on jette 3-4 livres de 100 pages à la poubelle pour votre entourage, quoi. Parce que ça affecte quand même d'avoir travaillé pendant 2 mois, 3 mois, de se dire c'est pas possible, c'est nul, et de le jeter, quoi. Et puis j'ai écrit ces 2 livres de nouvelles, et puis ce roman, et puis après j'écris un peu tous les jours comme un journal, je note mes rêves, tous les jours, journal des rêves.
Et vous avez une pensée magique ou un rituel juste avant d'écrire ou pas du tout ?
Non.
Et des horaires précis ?
Plutôt le matin, moi j'écris le matin tôt, le mieux, mais même pour la musique, c'est les insomnies. Quand je me réveille à 3-4 heures du matin, c'est ce que je préfère, entre 4 heures et 8 heures, ensuite j'emmène les petits à l'école, j'ai encore une heure ou deux, enfin les petits, j'ai un gosse qui est en troisième, je vais pas l'emmener à l'école.
Ça va très mal se passer. Le petit-déj dans la cuisine et tout. Là.
Oui, mais à 7h30, quoi, donc de 4h à 7h30, ça laisse un peu de temps.
Et ça donne Avalanche, superbe, chez Gallimard. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci Nicolas.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Dans un instant, visite de bibliothèque, nous partons chez Didier Barbelivien.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Caro.
Et il est l'heure de visiter une bibliothèque. Didier Barbelivien publie un nouvel album intitulé Didier Barbelivien, tout simplement. C'était l'occasion de voir de quel livre il se chauffe. Bonjour Didier Barbelivien.
Monsieur Nicolas, comment ça va ?
Merci beaucoup de nous accueillir comme ça chez vous.
Moi, c'est un plaisir de parler des livres et d'être dans les livres.
Et alors,
je vais te dire pourquoi, parce que très souvent, on m'a posé la question. On m'a dit, si vous n'aviez pas écrit de chansons, qu'est-ce que vous auriez aimé ? Être ou faire. Et j'ai dit, même si j'en ai pas les compétences, j'ai dit j'aurais adoré être libraire ou jardinier.
Parce que c'est pareil pour vous ?
Non. Libraire, c'est mon plaisir des livres. Et jardinier, comme vous le voyez en face, là.
Oui, vous avez la vue sur un très beau jardin.
Un très beau jardin, même un petit étang où je me fais croire que c'est un grand étang de Sologne. Parce que tous les auteurs sont un peu mythomanes, plus ou moins. Donc, je me raconte des trucs en regardant par la fenêtre. C'est comme ça.
C'est un parc public parisien, mais ça
parisien,
dirait
mais,
presque votre jardin. Du coup.
Mais oui, j'ai qu'à traverser la rue et je suis chez moi. Et là,
là où vous vous baladez ?
Oh, c'est pas que je me balade, c'est que ça fait 50 ans, un peu plus de 50 ans, que je hante cet endroit.
Et alors, on est dans votre bureau, c'est là où il y a les livres. Mais ouais. Vous m'avez dit avant qu'on allume les micros, c'est un peu ma malédiction habituelle, la plupart des livres sont dans une maison à la campagne.
Oui, encore que, comment dire, je ne suis pas un type qui qui collectionne les livres. C'est-à-dire que j'aurais pu, parce que j'ai plein d'amis dans l'édition littéraire, me faire faire ce qu'on appelle les envois d'office. C'est-à-dire on reçoit comme un critique littéraire, c'est pas à vous que je vais raconter ça, des piles par semaine. Non, moi j'ai le plaisir à aller les acheter. J'en reçois très peu. On doit m'envoyer 10 bouquins dans l'année. Or, j'en lis 2 par semaine.
Vous avez un libraire préféré ?
Ouais, je vais rue de la Borde. À gauche, il s'appelle Philippe. C'est la librairie Fontaine.
Ah oui.
Je suis devenu pote avec eux, là en bas de la rue de Miroménil.
Très jolie librairie. Mais alors, c'est quoi les livres qui sont
ici ? Pas que là, mais...
C'est quoi ce que vous gardez ?
Alors là, c'est tout ce que j'aime, que j'ai eu... sous la main à Paris, que j'ai acheté. Je vais les revisiter avec vous pour certains. Par exemple, celui-là, je viens de l'avoir. Bon, lui, c'est un copain, c'est David McNeil. Mm-hmm. Quelques pas dans les pas d'un ange. Il retrace son enfance avec son père qui était Marc Chagall. Et c'est merveilleux parce que c'est comme un conte de fées. C'est un livre qui retrace son enfance et son enfance, elle est... Alors qu'il est là-bas, au départ, je crois que sa maman est écossaise ou un truc comme ça. Mais c'est un livre plein de soleil et de lumière. C'est un livre qui fait bon de lire par le temps qu'il fait en ce moment.
Et vous l'avez rencontré comment ?
Qui, David McNeil ?
Ouais.
Ah là là, il y a 50 ans, à l'American Center, boulevard Raspail.
Ah, vous vous souvenez du moment ?
Ouf ! Ici, je me souviens du moment. Il jouait de la guitare avec quelques voyous de ma connaissance. Et on a sympathisé pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est sympathique. Et deuxièmement, parce qu'il a, je trouve, un talent énorme.
Il y a beaucoup, beaucoup d'Américains dans vos livres.
Ouais,
il y a Frank Conroy. Il y a beaucoup de John Fante. Des vieilles éditions.
Il y a Jim Morrison.
C'est votre lecture préférée, la littérature américaine ?
Disons 50-50. Mais j'en lis beaucoup.
Il y a Philip Roth.
Ouais. Non, mais j'en lis beaucoup. C'est vrai que j'en lis beaucoup, je ne me rends pas compte, mais en fait, comment je départage ? Il y a un auteur que j'ai découvert, enfin, ce n'est pas l'auteur que j'ai découvert, c'est son livre qui m'impressionne, c'est Graham Swift,
oui,
Le Dimanche des Mères.
Je l'ai vu passer quelque
part. Là, vous l'avez lu, ça ?
Magnifique.
Ça, c'est ce que j'appelle un chef-d'œuvre. Là, je l'ai en livre, je ne sais pas comment, comment on appelle
folio,
ça ?
En folio.
Mais attendez, je dois l'avoir en vrai là-dedans. Ou en tout cas, j'en ai des exemplaires à la campagne. Parce que quand j'aime un livre à ce point-là...
Et Le Dimanche des Mères, le titre, c'est le jour
voilà,
au début
regardez,
du siècle où les domestiques avaient leur congé pour aller voir leur mère.
Et je l'ai en édition originale chez Gallimard, machin.
Monde entier.
Et parce que je suis un... Comment on appelle ça ? Quand j'aime un livre, il me le faut un 5 ou 6 exemplaires.
Vous êtes un obsessionnel.
Voilà. C'est-à-dire, il ne faut pas que je le perde. En plus, j'ai tendance à les donner à des amis qui passent en lui disant « Lis ça, t'es un âne, t'as jamais lu ça. »
Et alors, pourquoi Le Dimanche des Mères en particulier ?
Parce que je trouve que c'est une écriture de fou en 140 pages. Un truc rassemblé, comment dire, dans un univers clos, puisque... Tout va se passer à l'intérieur d'une maison, ce fameux dimanche. La domestique reçoit un appel, elle n'ose pas dire à ses patrons qu'elle va quitter la maison. Elle va rejoindre son amant qui doit se marier le lendemain. Enfin, c'est un truc de dingo. Et en plus, évidemment, pour tout arranger, on est dans l'Angleterre du début du XXe siècle. Et bien entendu, la domestique est de couleur.
Ça complique.
À l'époque, on disait « elle est noire ». Maintenant, il ne faut plus dire.
Et c'est ce livre-là de Graham Swift ou c'est tout Graham Swift ? Vous êtes obsessionnel
non,
de tout Graham Swift ?
C'est ce livre-là. Parce qu'effectivement, me connaissant comme vous ne me connaissez pas, je me suis acheté tout Graham Swift dans la foulée.
Ah oui, d'accord. Mais vous avez commencé par celui-là.
Et j'ai commencé par celui-là. Et ça, c'est un chef-d'œuvre.
Ah ouais,
et le reste.
Vous êtes de ce genre-là. Quand vous découvrez un auteur, crac, vous prenez toute la collecte.
J'ai fait ça avec James Salter.
Ah oui, oui, j'ai vu pas mal de James Salter. Qu'est-ce qui vous plaît chez James Salter ?
Ben, James Salter, il me plaît deux choses. D'abord, il est aviateur. Moi, j'aime les avions, j'aime les aviateurs. Et Et il a un truc...
Vous avez notamment un roman avec un titre incroyable.
L'homme des hautes solitudes. Ouais.
Je ne sais pas quel titre original.
Je ne l'ai pas encore lu, celui-là, en plus. J'ai beaucoup de stock. C'est pareil.
Ça, ça.
C'est comme la nourriture. Si je peux en stocker un peu, avant de me mettre à table, j'aime bien. Et ça, j'ai besoin de stocker des livres, moi.
Et Salter, comment vous êtes tombé dessus ?
James Salter ?
Ouais.
Aux éditions de l'Olivier, au début, par hasard. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce type, donc, qui est un scientifique à la base, il peut rejoindre Scott Fitzgerald dans l'écriture à des moments. Et moi, ça me fascine toujours, ça. Mais pour en revenir au livre j'allais lire de ma vie, que j'ai acheté en plusieurs exemplaires, il y a eu Le Grand Maulne.
Oui, qui est là.
On a tendance à l'oublier.
Il y a c'est eu vrai un qu'on bouquin... l'oublie, Le Grand Maulne, ça fait un peu poussiéreux comme ça.
Bah, ouais,
il vient d'être publié à la Pléiade,
ouais.
Et c'est génial, c'est l'histoire d'une
fugue d'un
gamin.
Surtout dans le domaine public, alors maintenant, ça a libéré...
Vous l'avez lu quand vous aviez l'âge
J'avais 14
du Grand Maulne.
Ans, ouais. Et je l'ai relu 22 fois, quoi.
On rappelle, c'est l'histoire d'un gamin, le narrateur, qui raconte son père est le directeur
fils
de l'école.
Instituteur, voilà.
Instituteur, il vit dans l'école, et un jour arrive
un personnage,
un Maulne, qu'on appelle le Grand Maulne, qui est un peu plus grand que les autres.
Un type plus grand, plus fort, plus fascinant pour toute cette petite classe. Et je pense que, enfin, dans ma génération, on en a tous connu un, quand on était à l'école ou au lycée. Un type qui impressionnait la classe un peu plus que les autres. Donc Augustin Maulne, bien évidemment. Et je voulais parler aussi d'un héros, d'un anti-héros qui s'appelle Dominique, qui est le titre d'un roman d'Eugène Fromentin.
Oui, qui est là.
Il est là. C'est normal. Ouais,
une vieille version poche.
Une vieille version, mais ça c'est pareil. À la campagne, j'en ai 5 exemplaires. Je les mets dans un truc, une édition rare... relié, enfin bref. Lui, il est, comment dire, le préfigurateur, enfin, pas le préfigurateur, c'est l'inventeur du romantisme français. C'est-à-dire avant Lamartine, Chateaubriand, Stendhal, Flaubert, tout ça, il y a Eugène Fromentin avec Dominique. Or, et encore une fois, c'est comme pour James Salter, c'est pas son boulot à Fromentin d'écrire des romans. Il est peintre de la marine, Eugène Fromentin. Et je pense que c'est suite à une déception sentimentale qu'il écrit ce chef-d'œuvre.
Qui raconte quoi ?
Qui raconte une passion platonique d'un homme qui s'est retiré, comme ça se faisait, un genre de petit noblio de province, qui se retire sur ses terres pour se remettre d'un chagrin d'amour dont, évidemment, il ne se remettra jamais.
On ne peut pas dire qu'il soit oublié, Fromentin, mais il est quand même passé un peu derrière les Flaubert, les Stendhal.
Bah moi, je ne l'ai même
c'est
pas eu.
C'est fascinant, ça.
Ouais, moi, je ne l'ai même pas eu au programme, alors que j'ai passé un bac littéraire quand j'étais jeune et qu'on n'avait pas Fromentin au programme.
Mais ça vous intéresse, l'injustice de la postérité, parfois ?
Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment une injustice ? Je ne pense pas, parce qu'après, on se donne le mot. C'est comme pour les lieux de géographie un peu magiques. On a toujours un copain ou une amie qui nous dit « Mais enfin, tu ne connais pas la colline de Vézelay, mais tu es un fou. Va une fois sur la colline de Vézelay. » Bon, et je pense que c'est pareil pour les livres. Par exemple, j'ai un truc qui tue, là. J'en ai un autre, là, que je n'avais pas repéré depuis longtemps. Mais que j'ai lu il y a 30 ans, qui s'appelle « Nous sommes éternels » de Pierrette Fleutiot. Voilà. Il est là. C'est un pavé, c'est un truc énorme. Il a été primé, ce livre, en plus.
Alors, c'est pas facile, parce qu'il y a plein de voitures de Tintin,
oui,
des miniatures devant.
Oui, mais ça sert rien, c'est pas grave.
Je savais pas que vous étiez un fou de Tintin, comme ça.
Si, mais j'aime bien, mais je sais pas de quoi je suis un fou. Mais ça me prend d'un coup. C'est-à-dire, j'en ai vu une, paf, vous avez vu, me les faut toutes. C'est comme ça.
Il y a la Jeep de.
Je suis un type hyper dangereux. Je suis un consommateur dangereux. C'est-à-dire.
Un excessif.
C'est très rare que je m'arrête à un objet.
J'ai pas dit, hein, je décris au fur et à mesure, mais il y a un piano, des guitares, évidemment, un peu partout.
Ça, oui, il faut bien.
Et puis, pourquoi est-ce que vous faites avec le disque de diamant d'Elton John ?
Celui-là, il intrigue tout le monde. C'est pour ça que je le laisse dans mon bureau, je fais un peu exprès, parce que c'est un disque de diamant. En fait, c'est un disque du temps des disques d'or. Sauf que celui-là est un disque de diamant que m'a fait envoyer Elton John. Vous avez vu qu'il est, la plaque est à mon nom. Il n'y a pas que le disque, approchez-vous. Vous allez voir que la plaque à Didier Barbelivien.
Ah ouais.
Voilà. Parce qu'en fait,
lors d'une vente, c'est 1 million d'albums.
Lors d'une vente de charité qui avait lieu chaque année dans les années où ça existait encore, sur une radio concurrente à la vôtre, mais néanmoins amie, tous les ans, j'achetais un disque d'or pour l'association de... Comment ça s'appelait ? Du variété. J'oublie le nom. Mais il y avait le mot variété dedans. Et avec ça, avec l'argent des disques d'or vendus, on achetait un car aux handicapés pratiquement chaque année, ou des fauteuils roulants. Et un jour... John Lennon, parce que quand même, je me suis demandé pourquoi un jour, enfin non, j'ai demandé l'explication, pourquoi j'étais heureux quand on voit ça.
Et il m'avait reçu un jour comme ça.
Non, ils m'ont appelé, c'est le Polygram, ils m'ont dit, voilà, Elton John, vous avez fait un disque de diamant, où peut-on vous l'envoyer ? Et je dis, mais à quel titre Elton John m'a fait faire un truc ? Je ne connais pas Elton John, je l'ai connu depuis, hein, je l'ai rencontré à Nice, chez une amie commune, il me dit, c'est pour vous remercier, parce qu'il a dit, qui est le fou qui achète mes disques d'or tous les ans ? Et c'était moi, et qui les remettait en vente pour que le Variety Club, justement, ait des fonds pour acheter qui un quart de déplacement, qui et des fauteuils roulants. Voilà l'histoire de ce disque.
Et je voulais faire une
qui
transition
m'est cher à plus d'un titre.
Habile vers la musique, parce qu'il y a une deuxième bibliothèque au milieu de laquelle il y a une portée en double page, encadrée.
Encadrée, ça c'est...
Et très peu de notes.
C'est les dernières notes, entre guillemets, qu'a écrit mon ami Francis Lay. On était en train de travailler sur un film de Claude Lelouch qui s'appelle « Les dernières années d'une vie ». Et Francis avait noté, avec son chiffrage très particulier au crayon de papier, la mélodie de cette chanson.
D'accord.
Et que j'ai gardée, voilà, qu'il m'avait donnée.
Ce sont les dernières
notes. Ça reste un souvenir de ce compositeur que j'aimais tellement.
Bon, et alors, il y a une somme considérable de livres sur Bob Dylan, des grands formats, des petits formats.
Pareil, comment dire ?
Vous l'avez croisé déjà ?
Jamais. Il fait partie de ma mythologie d'auteur, Bob Dylan. Ça reste...
Mais qu'est-ce que vous cherchez dans ces livres-là ? Parce que j'imagine que vous le connaissez par cœur depuis 60 ans.
Non, mais je ne me lasse pas de relire des anecdotes du début des années 60, quand il vivait avec Suzy Rotolo. Non, j'aime bien la période Jan Baez aussi. Je pense que le vrai attachement que j'ai pour Bob Dylan, il doit se situer entre 61 et 66, jusqu'à l'accident de moto qui va le tenir un peu à l'écart de la musique.
Alors, il y a plein de romans des institutions, quoi. Il y a Raymond Chandler, il y a Neil Gaiman, il y a de la série noire, il y a Jim Morrison.
Ouais.
Et au milieu, enfin, un peu partout, il y a aussi
Jim
beaucoup
Harrison
de nouveautés.
Que j'ai nommé Jim Morrison tout à l'heure, je me gourre. Jim Morrison ça n'a rien à voir.
Légende d'automne. Et Jim Morrison,
exactement.
C'est
exactement.
Quoi qu'on pourrait créer des passerelles.
Ouais, c'est
poésie.
Vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai.
Non, mais ce que
il y a même
dire.
Stephen King qui a été...
Oui,
au début de sa carrière et le moment où j'ai rencontré cet auteur est pour moi totalement fascinant.
King ?
Ah ouais. C'est pour moi. Parce que, bizarrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les auteurs qui vendent beaucoup
sont sympas,
mais la critique a tendance à dire « Oh,
ouais,
Stephen King, oui, oh,
Stephen King, c'est intéressant parce qu'au début, c'était ça, la critique. Mais aujourd'hui, c'est un héros, y compris pour la critique.
Ben, j'espère, parce que c'est un auteur éminemment littéraire, en dehors de ses intrigues un peu folles.
Vous avez le Beck BD, qui n'a pas de titre, qui est l'homme
qui
pleure de rire.
J'ai lu tout Beck BD, moi. C'est pareil, Beck BD, ça fait partie des mecs. C'est un faux léger, quoi. Les gens se disent, enfin, oh, Beck BD, un ancien publiciste et tout ça, machin. Mais non, c'est un écrivain merveilleux, merveilleux. Windows of the World reste un...
Ah bah faut qu'on parle de Windows on the World, c'est mon préféré des Beck BD.
Ah ben moi aussi,
c'est
non mais
le récit
mais,
d'un petit déjeuner avec un homme d'affaires quand même, ses deux enfants, petit déjeuner tout en haut du World Trade Center. Il va se passer ce qui se passe parce qu'on est le 11 septembre 2001, juste une heure avant, et on suit minute par minute. Et en même temps, en alternance, Beck BD lui est dans la tour Montparnasse tout en haut.
C'est ça.
Et ça crée une sorte de contraste.
Ouais, c'est génial.
À la fois immensément tragique et en même temps drôle.
Et il faut lire aussi un roman français.
Qui est sa vie.
Du même garçon.
Sa jeunesse.
Ouais. Qui est. Enfin, moi, je le trouve extrêmement, extrêmement sensible et émouvant et comment dire, inspirant. Beck BD. Moi, je pense que Beck BD, c'est le dernier des romantiques français. Comprenne qui pourra.
Il dit égoïste romantique, lui.
Ah ouais, il dit ça. Je ne sais pas. Je trouve ça un mec qui a de la pudeur. Et de temps en temps, il s'est donné des rôles un peu trash pour un peu dérouter les bien-pensants. Mais pour moi, c'est un immense auteur.
C'est très, très large, hein, votre sélection de livres.
Ben, c'est de la même façon que je compose. Quand je dis que je suis un auteur-compositeur de variété, ça veut dire que je compose dans tous les genres possibles et imaginables, si possible.
Merci beaucoup, Didier Barbe-Olivien.
Ouais, merci d'être venu passer ce petit moment avec moi. La prochaine fois, on ira peut-être à la campagne.
Ça marche.
Et, de toute façon, je vous ferai pas un doggy bag, comme on dit, mais je peux vous faire un truc à emporter, bien que...
Un petit pique-nique.
Un petit pique-nique de livres, bien qu'à mon avis, vous n'en ayez pas... tant besoin que ça.
Non, ça va, de ce côté-là. Puis on vous retrouve dans 20 minutes pour l'émission, de toute façon.
Ben oui, de toute façon, on va retourner vers la musique, mais c'est ma main droite et ma main gauche, hein, vous l'avez compris. Je vis autant de récits littéraires que de musique légère.
D'ailleurs, j'aurais pu appeler cette séquence « Dis-moi ce que tu lis ».
Ben, il y a de ça, hein.
Absolument.
Dans votre enquête et votre inquisition. Bon, on va essayer de dire à nos patrons qu'on on fusionne, on fait un lien. On passe de « dis-moi ce que tu lis » à « dis-moi ce que tu chantes hein ». Chers auditeurs, écrivez-nous. Dites-nous si vous êtes d'accord pour la fusion.
Merci beaucoup, Didier.
Merci, Nicolas.
À bientôt.
De retour à Europe 1, je rappelle Didier Barbe-Olivien, c'est le titre du nouvel album de... Didier Barbe-Olivien, dans un instant encore des livres et de la BD, de la littérature jeunesse avec toute l'équipe de La Voix est Livre. À tout de suite.
La Voix est Livre.
Nicolas Caro.
Dernier chapitre, épilogue de La Voix est Livre avec Sébastien Bordenave pour la bande dessinée, Héloïse Goy pour la littérature jeunesse et notre libraire de la semaine, Sandrine Babu. Immense Sandrine Babu, librairie L'Instant à Paris. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
On commence avec vous Sandrine, un roman.
Un roman de la rentrée littéraire d'hiver, parce qu'il y a aussi une rentrée littéraire en hiver.
Eh oui.
On n'a pas eu assez de 500 en septembre, on en redemande.
500 de plus d'ailleurs.
Voilà, 500 de plus, allez.
Avant c'était beaucoup plus ramassé quand même.
Ouais, là c'est... Mais bon, il y a des très bons livres, on est content. Donc je voulais vous parler du nouveau livre de Émilie Guillaumin, qui s'appelle « Petites dents, grand croc » chez HarperCollins. Mm-hmm. Émilie Guillaumin, qui n'est pas son premier livre, le dernier s'appelait « L'embuscade », qui sort en poche d'ailleurs, je vous le conseille également, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc, petite dent grand croc, on est avec Sarah, qui est une jeune femme, jeune maman, qui vit en couple, qui est DRH dans une boîte dans le 15e, tout se passe bien. Mais voilà, elle commence à s'ennuyer un peu et elle dit « Tiens, si je prenais une année sabbatique pour écrire un livre ?»
Tiens.
Ça part bien hein, comme ça. En fait, ça ne va pas bien se passer du tout. Hein. Je vous le dis dès le début, hein, la tonalité du livre n'est pas franchement gaie, mais c'est un vrai suspense, c'est un thriller, c'est un huis clos domestique. Donc elle s'arrête de travailler, elle commence à écrire, évidemment, elle ne trouve pas d'inspiration. Elle se pose des questions sur son couple, sur la maternité, elle a un petit garçon. En fait, elle s'est mariée avec cet homme, Pierre, qui est très séduisant, très sûr de lui. elle a eu cet enfant, c'est-à-dire que sa passion s'est un peu reportée sur son enfant. Et son mari ne se comporte pas très très bien dès le début. Il la relègue dans un rôle de femme au foyer. Il sème le chaud, le froid, il la piège. Enfin voilà, ça ne se passe pas très bien. Donc elle commence à perdre du poids. Elle prend des médicaments. Toutes les situations de la vie quotidienne qu'on a avec nos enfants, aller l'accompagner à un match de foot, aller au McDo, enfin rien ne se passe bien. Ça, je vous le dis. Donc ça fait un peu écho au titre. Hein. Alors petite dent grand croc, je ne sais pas à quoi ça vous fait penser vous spontanément.
Bah moi croc blanc, mais c'est à cause de croc, donc rien à voir.
Hein. Grand méchant loup.
Ouais, il y a un côté conte, il y a un côté contine en fait. Ouais. Et en fait, dans son livre, elle sème des petits cailloux, un peu comme dans Le Petit Poucet, mais c'est des petits cailloux un peu maléfiques. On comprend ou on ne comprend pas où elle veut nous emmener. Mais en fait, à la fin, on va avoir une surprise de taille.
Si je comprends bien, vous ne nous avez rien dit de l'histoire, parce que ce qui compte, c'est ce qui se passe pendant cette année sabbatique, c'est ça ?
C'est ça.
Parfait, ben on découvrira.
Et je voulais quand même juste citer en exergue, elle a mis une citation de Violette Leduc, ce qui n'est pas anodin sur la situation des femmes. « Les femmes meurent souvent à petit feu du bon équilibre des hommes. »
Oula.
Je vous laisse méditer.
On médite. Merci. Petite dent grand croc chez HarperCollins d'Émilie Guillaumin. Merci beaucoup Sandrine. Héloïse Goua.
Oui, aujourd'hui je vous parle d'une encyclopédie du rap pour les jeunes. Et si vous n'y connaissez rien à ce qu'écoute votre ado en boucle dans sa chambre, eh bien ce livre pourra vous aider. Ça s'appelle Rap Story. C'est du journaliste Olivier Cachin et illustré par Lazou. Alors sachez que le rap célèbre ses 50 ans cette année. Et depuis, c'est tout simplement devenu la musique la plus écoutée chez les jeunes, au moins en France. Tout ça, c'est bien sûr l'occasion de tester votre culture rap aujourd'hui, là, messieurs, génial. Dames. Déjà, est-ce que vous savez où et comment est né le rap ?
Bah, c'est Benny B en France, quoi.
C'est une culture.
Non, mais il y a 50 ans, c'était pas en France.
Dans Harlem, truc comme ça.
Aux États-Unis, bonne réponse pour Sébastien Bordenave. Très exactement le 11 août 1973 dans le Bronx à New York.
C'était pas loin, Harlem, j'ai dit.
Oui. C'est lors d'une soirée que des DJ ont inventé de nouvelles méthodes pour faire du son comme le scratch. Vous savez, manipuler le disque pour faire... Oh là là, vous
je
le faites bien.
Ah,
merci Sébastien. Pour les bruitages. Des rappeurs mettent l'ambiance au micro, des graffitis apparaissent sur les murs. C'est aussi la naissance du breakdance. Et là, comme ça, est-ce que vous pouvez me dire qui sont les pionniers du rap en France ?
NPM, Lionel D.
Greg.
Vous en avez cité un, Sébastien Bordenave.
Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse le Mia.
Je danse le Mia de Hayam, on est en 1994, les radios passent pour la première fois du rap français et la France entière découvre le rap, c'est le début de l'âge d'or de ce genre musical. On fait un saut dans le temps avec une autre info qu'on apprend dans le livre. Est-ce que vous savez quel rappeur qui cartonne aujourd'hui en France est capable d'enregistrer 50 singles et 5 albums en une seule année ?
J'essaye, en survêtement et en scooter.
C'est un Marseillais.
Ouais, bah, vous êtes pas.
Ah bah, si.
C'est un Marseillais.
Il y a trois lettres.
Eh oui.
Jul.
Eh oui, on l'écoute. Ah.
On a le regard qui suit.
Je vois que vous avez une très bonne culture rap. Alors,
autant sur
Sébastien.
Les nouveautés des romans, je suis un peu largué, autant sur Jul.
Jul vous parle.
Mais vous faites pas une chronique livre jeunesse, vous, Héloïse ?
Mais si, mais ce livre est pour les jeunes.
C'est Stéphanie Loire, là, c'est une chronique musique.
Non, ce livre est pour les jeunes, parce qu'encore une fois, c'est la musique la plus écoutée par les jeunes.
Non, il est pour moi, ce livre.
C'est ça. Dernière question à l'international, cette fois. Est-ce que vous savez quel rappeur a remporté l'Oscar de la meilleure chanson en 2003 ?
Eminem.
Mais vous savez tout, Sébastien.
Bah oui, 8 Miles.
Exactement. Eminem, Lose Yourself, avec le titre 8 Miles. C'est l'un des titres de rap qui a passé le plus de temps en première position des charts. Cette encyclopédie est aussi remplie de témoignages de rappeurs comme Oxmo Puccino, Relsan, L'Homme Pâle, Joey Starr. Tous nous parlent de leur influence musicale. Et puis chaque chapitre comporte aussi des tops pour rattraper sa culture rap. 15 rap des années 90, top trap des États-Unis. Il y a même un top 8 des morceaux marquants du rap français qui n'ont pas été des hits. Alors que vous vous y connaissiez ou non en rap, a priori vous et vos enfants allez forcément apprendre des choses dans ce livre passionnant qui s'adresse à tout le monde. Ça s'appelle Rap Story, l'encyclopédie du rap de Olivier Cachin et Lazou, et c'est chez Flammarion Jeunesse.
Sébastien Bordenave, vous nous parlez cinéma ?
Comme tout le monde a changé. Non, deux BD, deux salles, deux ambiances. Pour la première, on part à Hollywood, HOLYWOOD. Je sais, Nicolas, que vous savez écrire Hollywood, mais si j'appelle, c'est que Maltet et Zidrou, le dessinateur et le scénariste, ont choisi pour cet album de prendre chaque lettre du mot Hollywood pour raconter l'histoire courte d'un personnage en rapport avec le cinéma américain. Exemple, un L comme Lorine. C'est l'histoire vraie et directement inspirée de celle de Peg Entwistle. Nous sommes en 1932, elle a 24 ans, elle décide de tenter sa chance à Hollywood auprès de nombreux castings. Sans succès, déprimée, elle se rend au pied du H de Hollywood, plie son manteau, pose son sac, grimpe tout en haut de la lettre. Une fois en haut, elle se jette en bas, une chute fatale de 13 mètres, cruel destin. Après sa mort, elle reçoit une lettre quelques jours après pour une proposition de rôle, celui de l'histoire d'une femme qui à la fin se suicide. Alors je vous rassure, la BD alterne le rire et l'émotion. On y évoque aussi par exemple les acteurs hollywoodiens obligés de cacher leur homo ou bisexualité pour ne pas décevoir leur public entre guillemets. Je vous recommande la BD Hollywoodland chez Fluide Glacial. C'est
magnifique.
Vrai qu'à l'origine, il y avait marqué Hollywood, pas il y avait marqué Hollywoodland, pas
oui,
Hollywood.
Ils ont enlevé le land.
Exactement, 1949. Deuxième BD, un manga, il est de Daisuke Igarashi, édité chez Delcourt et ça s'appelle Les Enfants de la Mer. Je sais pas vous Nicolas, mais moi j'adore les loutres.
Moi aussi j'adore les loutres.
Et les dugongs.
Ah, ça, je sais pas.
Les dugongs.
Ça, je sais pas.
Le dugong, c'est un gros mammifère marin tout flasque qui peut faire 900 kilos. Sa vie s'est plongée à 10 mètres de profondeur pour brouter. Il est herbivore. Bref, c'est l'animal le plus cool qu'on puisse trouver si on va à 10 mètres de profondeur. Vous voyez pas ce que c'est un dugong ?
Pas du tout.
Non. Gros,
voilà. Le manga, Les Enfants de la Mer, eh ben, c'est un peu le livre de la jungle, mais avec des dugongs. Umi et Sora sont deux garçons et ils ont été élevés par des dugongs. Ils apparaissent et disparaissent au gré des paysages marins. Un coup, ils s'évaporent dans la mer. Un coup, ils apparaissent dans le gigantesque aquarium d'un parc aquatique. Non seulement ils sont insaisissables, ces deux enfants, mais en plus, depuis qu'ils sont là, des phénomènes aquatiques étranges se multiplient. Des baleines, des tortues, des raies disparaissent dans de fascinants halos de lumière. Et ça, je peux vous dire, Nicolas, que quand des raies commencent à disparaître dans des halos de lumière, il faut vraiment s'inquiéter. Les enfants de la mer, les dessins sont un peu comme l'histoire, pas commun. Et pour qui est un peu sensible à la magie maritime et au dugong, eh ben, on est en apnée d'admiration. Voilà, les enfants de la mer.
Vous avez une petite citation ?
Allez, une citation BD trouvée dans un album de Johan et Pierre-Louis. C'est dessiné par Peyo, le papa des Schtroumpfs.
Moi, je dis Johan.
Johan, si vous voulez. Il est écrit à la fin de cette BD, sortie en 70. Ils furent heureux et pourtant, ils eurent beaucoup d'enfants.
On rappelle Héloïse Rap Story. C'est chez
Flammarion Jeunesse.
Et puis Sandrine.
Petite dent, grand croc, Émilie Guillaumin, HarperCollins.
Merci à tous les trois. Et Sandrine, je rappelle, on vous retrouve à la librairie L'Instant, Paris 15e. Notre invité, c'était Raphaël Haroche. Tout à l'heure, je redonne le titre du roman Avalanche chez Gallimard. Merci beaucoup à Agnès Vaudin pour la préparation de cette émission. Grégory Delpeche pour la programmation musicale et à la réalisation. Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. Et dans un instant, on retrouve Didier Barbelivien. Tiens, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.